Salut à tous et à toutes, bienvenue à l'émission Point de vue, Boris Chassagne qui vous accompagne pour la prochaine demi-heure. Aujourd'hui, une journaliste haïtienne s'exile à Edmonton, incapable d'assurer la santé et la sécurité de sa famille.
La situation étant dégradée et face à l'impuissance des autorités, l'impuissance de la police, ils kidnappent n'importe qui. Ils kidnappent, ils tuent, ils violent, ils volent n'importe qui.
Deux chanteurs francophones tournent dans le Grand Nord canadien. Pierre Guitard et Antoine Lachance se produisent sur les scènes de Yellowknife et de White Horse.
C'est cool, je veux dire, c'est comme la meilleure place à casser les tunes. Le public est réceptif. Nous autres, ça nous permet de préparer le show puis de tester des affaires. On est capable d'amener des spectacles francophones dans les communautés qui sont plus éloignées.
Stan Surette s'est pendant près de 40 ans porté à la défense des droits des Acadiens francophones de la Nouvelle-Écosse. Il nous quitte à l'âge de 90 ans. On honore bien sûr sa mémoire.
Pour moi, Stan, c'est l'un des grands bâtisseurs de la communauté acadienne de la Nouvelle-Écosse des dernières 20 ou 30 dernières années. Là.
Et le rideau tombe sur le 28e Festival du conte pour enfants d'Ottawa, l'occasion de rappeler le rôle essentiel de l'imaginaire dans le développement des tout-petits.
Le conte, c'est émotif. C'est l'histoire émotive d'un peuple. Et c'est cette émotion-là qui nous parle, c'est cette émotion-là, c'est cette humanité qu'on retrouve dans les contes qui est universelle. Et c'est ça que je trouve précieux dans l'art du conte.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Alors, on s'arrête d'abord à Edmonton, en Alberta, pour vous parler de la crise en Haïti. Les nouvelles sont inquiétantes et la situation est littéralement désastreuse. La population du pays qui vit dans un climat d'insécurité, d'isolement et d'incertitude constant, dans ce pays où les gangs font la loi, font la pluie et le beau temps, en fait, dans les terminaux pétroliers et les ports du pays, occupent des postes de police, palais de justice, si bien que le gouvernement, impuissant, fragile et peu outillé, ne sait plus où donner de la tête. Les prix des aliments grimpe en flèche, les kidnappings se multiplient, à cela s'ajoutent famine et choléra. Le cocktail est explosif, mais certains trouvent le moyen de quitter le pays en toute hâte, en catastrophe, et de joindre les rangs de la communauté haïtienne des grandes villes du pays. Des Haïtiens comme Kétia Jean-Pierre Taylor, journaliste pour la radio web Radio Diaspora Inter, et qui observe impuissante maintenant depuis Edmonton ce qui se passe dans son pays d'origine. Elle qui dit encore espérer une réponse ferme de la communauté internationale, seule capable à ses yeux de calmer le jeu, de stabiliser un peu le pays pendant qu'elle se pose tout doucement au Canada. Kétia Jean-Pierre Taylor, journaliste pour Radio Diaspora Inter, elle est en compagnie d'Eli Nkoulou.
La situation se dégrade au quotidien. Ma famille et moi, on a décidé de donner un autre avenir avec notre enfant. Et la situation se complique. Les enfants d'Haïti n'ont pas d'accès à l'école pour l'instant. Pour l'instant, les écoles sont fermées. On a beau réfléchir pour trouver une solution pour notre famille. Le mieux, c'est de nous déplacer. Et avant notre départ, mon mari a été victime du kidnapping. Il a été enlevé. Et tout ça nous a poussé de laisser le pays.
Ce kidnapping sur votre mari, était-ce parce que vous faisiez aussi de la radio là-bas?
Les gangs, ils kidnappent des gens, ils pensent qu'ils pourraient avoir de l'argent. Ils sélectionnent des personnes qu'ils vont kidnapper. La situation étant dégradée et face à l'impuissance des autorités, l'impuissance de la police, ils kidnappent n'importe qui. Ils kidnappent, ils tuent, ils violent, ils volent n'importe qui. Pas besoin de savoir si ta famille a de l'argent, s'il n'en a pas. Ils kidnappent. C'est pas parce que je fais de la radio ou pas, mais j'étais victime de l'insécurité générale qui est présente et fortement présente dans le pays.
Les gens d'origine haïtienne qui sont ici depuis plusieurs années, comment réagissez-vous par rapport à ce qui se passe?
On observe. Mais ça nous dérange. Ça nous dérange parce qu'on a de la famille là-bas, des amis, de la famille et qui sont là-bas. C'est très compliqué. On vit ça mal. Et chaque jour, vous faites les formations sur votre pays d'origine. 8 personnes sont tuées et au moins 3 personnes sont kidnappées. Et des enfants ne pouvaient pas aller à l'école, c'est très, très compliqué. Les gangs armés ont pris le contrôle du terminal Vareux qui et le centre du stockage plus de 70% du pétrole du pays. Pas de carburant dans les pompes à essence. Et ce sont des informations qui nous perturbent, qui nous dérangent. Et dehors, parce que vous avez de la famille là-bas, des amis, tout le monde vous dit que c'est extrêmement compliqué pour eux. Et ils n'ont pas d'accès à de l'eau potable, ils n'ont pas d'accès à des produits et du premier nécessité. C'est très, très compliqué. On vit ça mal, même si pour l'instant, on peut rien faire, tout simplement. On peut observer et dénoncer sur les réseaux sociaux, dénoncer à travers nos reportages, à travers nos positions, mais et poser des actions concrètes pour dire non, pour aider la population haïtienne. Je dirais, pour l'instant, c'est non, on peut rien faire.
J'imagine bien que vous surveillez également ce qui se dit dans les gouvernements. Il y a le ministre des Affaires étrangères des États-Unis qui est passé. Et ici, les Canadiens s'interrogent sur comment intervenir, surtout qu'est-ce que les Haïtiens désirent comme intervention. Est-ce que la communauté haïtienne au Canada essaye de pousser un petit peu à ce que les choses se passent vite entre nos gouvernements?
La communauté haïtienne ici et au Canada et bien sûr à Edmonton, on souhaite vraiment que la situation, les lignes se bougent. La situation ne peut pas rester coincée. Une population souffre, une population abandonnée, une population est mutilée par les gangs armés, ça doit cesser. Mais comment faire? La communauté internationale, les États-Unis, quand on parle de la communauté internationale à travers et pour Haïti, c'est les États-Unis et le Canada. Les États-Unis et le Canada, ils jouent sur le temps pour certains et la société civile haïtienne et croit que et ces deux pays-là essaient de faire et l'intervention ou à sa manière. Le gouvernement haïtien avait fait sa demande, le gouvernement dirigé par M. Ariel Henry, et le gouvernement avait fait sa demande, l'aide de la communauté internationale. Une décision ou une demande pas encore approuvée et l'ONU est très réticent sur ce dossier et Anthony Blinken, il a été pendant 2 jours, je crois. Pendant 2 jours, il a discuté avec le premier ministre Justin Trudeau. Il a discuté avec la ministre des Affaires étrangères canadienne Mélanie Joly. Alors, tout ça sur la crise haïtienne. Jusqu'à maintenant, la délégation canadienne et qui était en Haïti, déjà entrée au Canada, rien n'est dit. L'ambassadeur canadien en Haïti, Sébastien Carrière, a informé et mardi, et aucune décision n'a été prise sur la situation en Haïti. Pendant que la communauté internationale joue sur le temps, la population haïtienne souffre. Rien n'est fait. Et le gouvernement haïtien est impuissant face à cette situation. Mais la société civile haïtienne est très pessimiste sur l'intervention militaire en Haïti parce que les résultats de la dernière intervention militaire en Haïti, c'était catastrophique avec la MINUSTAH. La MINUSTAH nous a laissé le choléra et la MINUSTAH nous a laissé avec des jeunes gens, des jeunes filles violées. Maintenant, comment les États-Unis et le Canada vont faire pour donner à Haïti une intervention militaire pour améliorer ou corriger les dégâts causés par les autres interventions? La population haïtienne, elle est dépassée. Un gouvernement inutile, malheureusement, c'est le cas. C'est très, très compliqué en Haïti avec les bandes armées qui occupent tous les recoins du pays.
Je vous remercie pour cet entretien.
D'accord, merci beaucoup.
Depuis cet entretien, le Canada a sanctionné l'ex-président haïtien Michel Martelly et 2 anciens premiers ministres, Jean-Henri Séan, qui a été président de 2018 à 2019, et Laurent Lamothe de 2012 à 2014, et qui aurait largement profité des activités des gangs et de la corruption. Le Canada qui a par ailleurs annoncé une aide de 16 millions de dollars pour lutter contre le choléra, la corruption et pour renforcer l'accès à la justice. Le Canada qui n'a aucune intention, dit-il, de mener une intervention militaire en Haïti tant qu'il n'aura pas le consentement de tous les partis politiques en Haïti et on suppose l'appui de la communauté internationale. Les États-Unis disent même souhaiter que le Canada pilote une éventuelle intervention militaire dans ce pays des Caraïbes.
Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca. qc.ca.
Tendons l'oreille maintenant à ce qui se passe un peu partout au pays. Remontons notre périscope, voir ce qui a attiré l'attention de nos collaborateurs de l'Initiative de journalisme local au Canada. On jette d'abord un coup d'œil au Nouveau-Brunswick qui accueillait les 19 et 20 novembre dernier le premier colloque de formation des éducateurs et éducatrices francophones. L'événement organisé par l'Association régionale de la communauté francophone de Saint-Jean, ou l'ARC-F, a permis à 150 éducateurs et éducatrices venant de Saint-Jean, Kispamis, Miramichi, Oromocto et Fredericton de partager leurs expériences et d'échanger sur ce qui reste à faire. Sébastien Caron y a rencontré Michel Côté, directeur général de l'ARC-F de Saint-Jean.
Autrefois, on utilisait le terme garderie parce que tout ce qu'on faisait, c'est qu'on gardait les enfants, okay. On s'assurait qu'ils étaient sécuritaires, c'est à peu près tout. Maintenant, c'est tout un environnement d'apprentissage, un environnement éducatif. Donc, on a plus de 125 éducateurs et éducatrices de nos milieux de Fredericton, Saint-Jean et Miramichi. Et puis, c'est une première. On n'a jamais vraiment eu ce genre de rassemblement-là. Puis, c'est enrichissant parce que nos éducatrices de Saint-Jean, par exemple, ont la chance de rencontrer des collègues qui vivent les mêmes réalités qu'elles dans leur milieu, étant donné qu'on est dans des milieux doublement minoritaires et puis qu'on a un rôle éducatif, mais aussi au niveau de l'apprentissage de la langue plus souvent qu'autrement. Alors, c'est intéressant qu'elles puissent partager des interventions ou puis des histoires à succès ensemble. C'est le temps de faire du réseautage et aussi d'apprendre parce que on a plus d'une douzaine d'ateliers qui roulent cette fin de semaine. Et puis, on apprend, ça peut être par rapport à la notion du consentement, d'autres, ça peut être le développement du cerveau chez l'enfant. Donc, on touche vraiment une panoplie assez élargie. C'est intéressant de pouvoir avoir ce genre de colloque-là pour nos éducateurs et éducatrices parce que ça l'arrive très rarement. On a toujours des formations, on essaie comme qu'on peut, mais d'avoir un gros colloque de cette ampleur-là, à ma connaissance, c'est une première. Mmh. Et puis j'espère que ça va se poursuivre par la suite, peut-être dans d'autres communautés.
Et dans la province voisine, les Acadiens de la Nouvelle-Écosse pleurent un fervent défenseur de langue française et aussi un grand bâtisseur. Stan Surette est mort le 16 novembre à l'âge vénérable de 90 ans. Stan Surette, qui s'est pendant près de 40 ans porté à la défense des droits des Acadiens et francophones de la Nouvelle-Écosse, M. Surette a non seulement été président de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse entre 2000 et 2004, mais aussi du regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse et de la Société de promotion Grand Pré. Il a aussi été membre du conseil d'administration de la Fédération des aînés francophones du Canada. Monsieur Surette a été honoré de nombreuses distinctions, notamment du certificat de mérite léger COMO décerné par la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse en 2004. Il a aussi reçu l'Ordre de la Pléiade en 2008 et le prix May Bouchard en 2015 pour sa contribution exceptionnelle et son dévouement aux aînés de l'Acadie de la Nouvelle-Écosse. Stan Surette a fait carrière dans l'enseignement puis comme directeur d'école. Il a toujours travaillé fort pour la reconnaissance du droit à un enseignement en français dans les écoles de cette province. Tous ceux qui ont côtoyé Stan Surette se souviennent de sa rigueur, de son humanisme, de sa bonne humeur. Notre journaliste Daniel Aucoin, posté à Chéticamp, a discuté de la contribution de M. Surette au développement de la communauté acadienne de cette province avec Jean Léger, ex-directeur général de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse entre 2002 et 2012. Il nous livre les souvenirs qu'il a de Stan Surette au moment où il tenait les rênes du Congrès mondial acadien de 2004.
Oui, en effet, ben le dossier le plus important de l'époque, c'était le Congrès mondial acadien qui a eu lieu en 2004 en Nouvelle-Écosse, qui était vraiment un grand rassemblement de toute la communauté. C'était une occasion exceptionnelle de valoriser l'Acadie de la Nouvelle-Écosse dans toute la francophonie, certainement dans toute l'Acadie. Un des résultats importants du Congrès mondial acadien, et on voit là la stratégie de Stan Surette et le leadership de Stan Surette. On s'est servi à l'époque du Congrès pour encourager le gouvernement de la Nouvelle-Écosse à doter les Acadiens d'une loi sur les services en français. Alors, c'est vraiment grâce au travail de Stan et au travail de la FAN et grâce au Congrès mondial acadien qu'il y a maintenant une loi sur les services en français en Nouvelle-Écosse. Stan a aussi aidé à ouvrir le gouvernement provincial davantage aux besoins des communautés de toute la Nouvelle-Écosse. On parle au niveau du réseau santé, on parle de l'immigration francophone. C'était à travers la FAN, mais c'était surtout aussi à travers Stan, qui avait de nombreux contacts auprès du gouvernement provincial à l'époque, tant sur le plan de la bureaucratie, là, des fonctionnaires, mais aussi sur le plan politique. Il est très, très, très bien connecté. Pour moi, Stan, c'est l'un des grands bâtisseurs de la communauté acadienne de la Nouvelle-Écosse des dernières 20 ou 30 dernières années. Là. Il a été impliqué dans tellement de choses. Il a été impliqué à la Société Promotion Grand Prix avec les aînés acadiens de la Nouvelle-Écosse. Il a été impliqué de différents dossiers comme ça qu'il a permis de faire avancer parce que quand il y avait Stan qui leadait une initiative, ça marchait. Je dirais à 95% des fois, là, ça fonctionnait parce que Stan avait ce leadership-là, oui. Alors, c'est une grande perte pour la communauté acadienne. Puis je vois que les gens reconnaissent son leadership. Et c'est pas toujours les gens qui étaient d'accord avec Stan, mais Stan avait sa façon et il faisait avancer les choses. Mais en gros, là, en général, je pense que Stan a été clé pour ce que la communauté acadienne de la Nouvelle-Écosse est devenue maintenant en 2022.
Ici Adèle à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue.
La ville d'Ottawa était l'hôte du 28e Festival du conte pour enfants. Le festival qui s'est conclu le 26 novembre réunissait des conteurs professionnels francophones et anglophones. Des contes qui ont été dévoilés en ligne, d'une part, sur la chaîne YouTube de la Bibliothèque publique d'Ottawa, mais bien sûr devant public dans différentes salles de la capitale nationale. Parmi eux, les contes du père Garneau, alias Claude Garneau, qui est conteur depuis près de 15 ans, et les récits aussi de la conteuse, auteure et comédienne Sylvie Bellot, pour qui l'amour du conte a commencé à l'âge de 8 ans, alors qu'elle était passionnée de contes russes. Marie Illès lui en a parlé.
Dans les contes russes, les princesses, elles sont débrouillardes. elles sont pas bêtes du tout. Elles sont protégées par l'amour de leur maman, comme dans Vasilissa la très belle qui va chercher le feu chez la Baba Yaga. Des personnages féminins beaucoup plus intéressants que la belle au bois dormant qui dort pendant 100 ans, que Blanche-Neige qui fait le ménage chez les nains et puis Cendrillon qui dépend de sa grand-mère fée. Les contes russes, je découvre une liberté que j'ai pas dans les contes traditionnels français qu'on me présente. Et je commence à lire des contes du monde. Et je me suis aussi mise à lire des contes des Premières Nations parce que j'aimais les contes. J'ai eu une couple de livres de contes des Premières Nations et les contes des Premières Nations, les contes autochtones, ils me parlaient parce que c'était ma forêt, c'était les animaux que je connaissais, c'était mes saisons. Donc, ça aussi, ça avait un écho qui était très différent d'autres types de littérature. Quand on est dans la lecture, on est dans un acte où c'est surtout les yeux qui travaillent. Il y a un travail d'imagination qui se fait, mais il y a vraiment une distance. On va rentrer. Oui, les bons lecteurs vont dire, oui, je rentre dans l'histoire. Mais le conteur, on passe pas par le visuel, on passe par l'oralité, on passe par l'écoute. Moi, comme conteuse, je m'aperçois que les histoires que les enfants ont entendues restent pas gravées dans leur mémoire de la même façon que les histoires qu'ils ont lues ou qu'ils ont regardées au cinéma. On travaille beaucoup avec les émotions. Pour moi, les contes, ce sont les rêves d'une société à un moment, mais le rêve, l'émotion qui est dans ce rêve-là, elle est toujours d'actualité. Le conte, c'est émotif. C'est l'histoire émotive d'un peuple. Et c'est cette émotion-là qui nous parle, c'est cette émotion-là, c'est cette humanité qu'on retrouve dans les contes qui est universelle. Et c'est ça que je trouve précieux dans l'art du conte. Je crois qu'aujourd'hui, c'est essentiel que les enfants écoutent des conteurs, débranchent des écrans, se branchent sur leur petit écran intérieur, créent leurs propres images et se laissent bercer par la voix du conte. Et aussi, ce que nous offrent les arts vivants, ce que nous offre pas le cinéma, ce que nous offre pas le dessin animé, C'est un moment de concentration ensemble. Quand un conteur est concentré dans son histoire, quand un artiste, que ce soit un danseur, un musicien, on est dans notre histoire, dans notre art, on a une qualité de concentration que le cinéma ne nous offre pas. Le cinéma, c'est tout fabriqué. Et je crois que les arts vivants sont essentiels pour permettre aux enfants de goûter à cette capacité de se déposer, de s'asseoir, d'être à l'intérieur d'eux le temps de la présentation artistique.
Merci à Marie Hillès à Ottawa. On vous parle dans un instant du coup de cœur franco de Yellowknife, mais d'abord Pierre Guittard et Embrasse-moi, tiré de son album Tuer la bête, jusqu'à dimanche. Interprète Pierre Guittard et Antoine Lachance se sont récemment et tous deux produits au Top Night Bar de Yellowknife dans le cadre de la tournée Coup de cœur francophone organisée par l'Association franco-culturelle de Yellowknife, et ils ont fait mouche devant un public très réceptif, admiratif et semble-t-il assoiffé de musique et de spectacles post-pandémique. Notre journaliste Raphaël Hamel s'est déplacé au Coup de cœur francophone pour recueillir leurs impressions.
Bon, c'était très bien. J'ai été surpris, mais d'une bonne façon surprise, parce que je ne les connaissais pas ni l'un ni l'autre. Parce que ça fait plusieurs années qu'on n'en a pas, et puis je soutiens l'assaut, et puis c'est mon devoir, je pense, comme francophone, de venir au spectacle.
Ben oui, c'était super le fun. Il y avait une belle ambiance. Ouais, c'était super. Il n'y en a pas assez. Ça en prendrait plus.
Oh, j'ai beaucoup aimé. J'ai décidé à la dernière minute de venir et j'ai beaucoup aimé le premier groupe. C'était très chill. J'adore ce genre de vibe. Et le deuxième groupe, Pierre Guittard avait énormément d'énergie. Alors ouais, j'ai beaucoup aimé. Et j'espère venir au prochain concert.
C'était vraiment bien, merci. Moi, j'entends surtout le rythme, mais j'aimais bien me concentrer aussi sur les paroles. J'ai vraiment aimé la première chanson qu'on a eue en anglais.
Ah, c'était super cool. Vraiment les bonnes vibes. Ah oui, souvent. Mais c'est toujours un bon échange entre le stage puis le monde dans la salle.
J'ai trouvé ça excellent. Écoute, les cœurs francophones, je suis vendu, là. Je suis venu à Vincent Vallière. On est venu voir Pierre Guittard. On est venu voir Antoine Lachance. Franchement, faut venir, là. Faut toujours venir. Un full band comme ça, ben non, c'est ça. Puis franchement, il faut que ça dure, là. Moi, j'ai vécu la pandémie ici. Ça a été la vache maigre quand même, là. Donc là, le fait que les shows reviennent, ça vaut la peine, c'est cool.
C'était vraiment super, une super opportunité. Moi, je connaissais pas les artistes. J'ai vraiment découvert des artistes francophones et c'était une belle soirée pour rencontrer encore du monde, se retrouver avec des amis et écouter de la bonne musique en français.
Écoute, j'ai trouvé ça très bon. C'était une découverte pour moi et sa chanson sur le fleuve qui parlait de son père, ça m'a même fait pleurer. Non, mais j'ai trouvé ça vraiment... Les paroles sont venues me chercher, j'ai eu des émotions. On a dansé, c'était une belle soirée.
J'ai trouvé que c'est très envoûtant, sensuel et très musical.
J'ai vraiment adoré. Sérieux, on voulait trop danser. C'était vraiment... ça venait chercher à l'intérieur. Et c'est ça. Je veux dire, en plus, toutes des hommes, c'est toujours plaisant d'avoir des beaux musiciens.
Mais sérieux, si on aurait eu un espace pour danser au milieu, ben on l'aurait fait. Mais on dansait quand même sur sa chaise.
Je connaissais pas du tout Antoine Lachance. J'ai vraiment beaucoup apprécié le concert. Alors que Pierre Guittard, on l'avait vu en 2019. Donc je savais dans quoi je m'embarquais et je savais que c'était un excellent artiste. Alors, je pense qu'on est extrêmement chanceux à Yellowknife qu'on ait d'aussi bons artistes qui viennent nous voir, parce qu'on est quand même vraiment loin, là.
Et les musiciens avouent avoir, eux aussi, adoré leur expérience, eux qui ont aussi pris la direction de Whitehorse au Yukon. Vous entendrez dans cet extrait les voix dans l'ordre de Pierre Guitard, du claviériste Nathan Van Herven-Zwin et d'Antoine Lachance, des témoignages recueillis par notre journaliste Raphaël Hamel.
Ben, c'est cool. Je veux dire, c'est comme la meilleure place à casser les tunes. Le public est réceptif. Nous autres, ça nous permet de préparer le show puis de tester des affaires. Il y a un petit peu moins de pression puisque justement le monde sont contents d'avoir un spectacle. On est capable d'amener des spectacles francophones dans les communautés qui sont plus éloignées. C'est toujours un plaisir de venir jouer. Puis nous autres, on se paye un trip sur le stage. On essaye des affaires. Fait qu'il y a peut-être des shows, des versions du show qui n'existeront plus après, que les gens auront vu ici puis ils pourront dire qu'ils ont vu des drôles d'affaires.
Ben oui, puis c'est le fun de pouvoir amener, c'est ça, comme tu dis, la des shows francophones dans ces coins-ci, parce que, tu sais, il y en a des communautés francophones, puis ils ont autant le droit que tout le monde d'avoir. Il n'y a pas juste au Québec, puis Nouveau-Brunswick, là, mettons. Là. Mm-hmm. Tout le monde a le droit d'avoir accès à cette culture-là. C'est juste que, tu sais, les coûts de déplacement sont tout le temps tellement. C'est tellement immense, c'est tellement intense qu'on y va pas souvent. Fait que c'est vraiment une chance, c'est inestimable.
Oui, tout à fait. Je savais pas à quoi m'attendre, puis, tu sais, j'avais pas poussé à aller voir des photos, tu sais, je voulais me garder une surprise, tout ça. Mais je pensais que ça allait être plus, plus petit. Je pensais qu'Iqaluit, c'était vraiment plus petit. C'est pas une grosse ville, mais quand même, s'il y a des hôtels, l'infrastructure, il y a des bars, c'est une ville quand même. Fait que je suis comme... C'est ça, je suis surpris qu'il y ait autant de monde, autant de trucs à faire. T'sais. Honnêtement, jusqu'à date, c'est vraiment le fun. Aussi, avec Pierre, je connais Pierre depuis plusieurs années, mais... les musiciens avec qui il l'accompagne, j'y connais un petit peu moins. Fait que c'est une belle gang, tout va bien. Fait que so far, so good.
Alors, Pierre Guitard et Antoine Lachance, qui se produisaient tous deux au coup de cœur francophone de Yellowknife, on vous invite à fouiller leur discographie. Ça a été pour moi aussi un coup de cœur. Ici, Antoine Lachance avec le titre Demain.
Dans le petit matin, combien me coûte cette eau chaude sur ma peau pour affronter les igloos de ma ville? Le zombie déglace son automobile. Combien de café ça me prendra? Je rattrape la montre en calculant tout bas tout ce que j'accumule pour l'inconnu.
Et voilà, c'est déjà tout pour nous. Nos collaborateurs cette semaine, Élie Nkoulou, Raphaël Hamel, Marie Hillès et Daniel Aucoin, coordonnateur national Stéphane Bénard, Boris Chassagne ici au micro et à la réalisation. Point de vue vous est présenté par le Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Merci d'avoir été là. Retrouvez-nous sur canada-info.ca. Des tonnes de reportages vous y attendent. Découvrez-y le Canada sous toutes ses coutures. Ciao!
Survoler la montagne, celle qui me nargue un peu trop, qui me chuchote en incapable. Demain je ferai un homme de moi et te rejoindre au bout du monde. Une fraction de seconde pour ne plus être celui que je suis maintenant. Patience, il me faut choc par choc au retour. Je regarde la tempête droit devant. Je me suis plombé l'aile trop souvent à enterrer tout espoir dans la neige, à lancer nos secondes dans les airs. Je suis ce mille en noir accroché aux ficelles. Je vire ma main. Celle qui me largue un peu trop, qui me chuchote en incapable. Demain je ferai un homme de moi et te rejoindre au bout du monde. Une fraction de seconde
pour ne plus être celui que je suis maintenant.